peu donc du hackathon qui est organisé par la BNF depuis maintenant 3 ans. Essayer d'en tirer un peu les conséquences, le retour d'expérience sur l'évaluation qu'on a pu faire de ces 3 sessions successives. Et je vais essayer de vous montrer comment on s'attache à faire entrer cet événement dans une stratégie plus vaste de co-création avec nos utilisateurs, avec le public qui est autour de nous, afin de retirer ce que le hackathon peut apporter, ce qu'il n'apporte pas, les problèmes qui peuvent être posés, et qu'on essaie d'aborder par d'autres canaux. Alors, le hackathon de la BNF, le hackathon BNF, est organisé au mois de novembre dans le cadre de la semaine de l'innovation publique. Le premier s'est déroulé en 2016, et donc la troisième session en novembre dernier. Le format de ce hackathon, c'est entre 60 et 100 personnes qui sont donc accueillies pendant 24 heures non-stop, ils passent la nuit à la BNF, et ils sont invités à se regrouper en équipe. Alors certains arrivent en équipe préconstituée, mais la plupart des équipes se constituent sur place. Et donc ces équipes sont invitées à proposer, à inventer, à imaginer et à concevoir des projets de services numériques à destination de nos utilisateurs, qui exploitent les données de la BNF. Donc aussi bien les métadonnées descriptives de nos collections et accessibles via un certain nombre d'API, de web services, que les collections numérisées elles-mêmes, en l'occurrence l'intégralité de notre bibliothèque numérique Gallica, qui est également accessible via un web service. On a fait le choix d'organiser ce hackathon au cœur des espaces publics de la BNF. Donc là, vous voyez peut-être pas, je ne sais pas si vous connaissez les espaces, mais les fenêtres que vous voyez derrière les hackathoniens, ce sont les grandes baies vitrées de la BNF. Donc les visiteurs, les lecteurs de l'établissement côtoient, en tout cas pendant la journée, parce que pendant la nuit évidemment, mais côtoient les hackathoniens. Ça montre un petit peu le double objectif de cet événement. Le premier, c'est vraiment un objectif de co-création. Aidez-nous à concevoir des nouveaux projets, des nouvelles idées que nous n'aurions pas eu nous-mêmes. On leur laisse une très grande liberté. On n'est pas du tout dans un modèle muséomix où les besoins de l'institution sont précisés, sont creusés, sont co-définis. Là, on laisse vraiment une très grande liberté aux hackathoniens de venir avec leurs idées, leurs projets, aussi fous soient-ils. Et un deuxième objectif, qui est un objectif de communication, de positionner la BNF comme un établissement non seulement au cœur de l'innovation, mais un établissement qui travaille avec ses utilisateurs pour construire les services de demain. Donc c'est pour ça qu'on veut que ce soit visible de tous, y compris de nos utilisateurs habituels. Je vous passe les problèmes logistiques que ça peut nous poser, mais voilà, c'est une volonté stratégique forte qui fait qu'on assume la complexité logistique que ça peut avoir de faire cohabiter des usages extrêmement variés dans des espaces similaires. Donc le hackathon, c'est à la fois des hackathoniens, mais c'est aussi beaucoup d'investissements des personnels de la BNF, donc dans la préparation évidemment, mais aussi dans l'accompagnement des équipes. Pendant les 24 heures du hackathon, on a environ 50 personnes de l'établissement, des volontaires, qui viennent accompagner les hackathoniens, des experts des formats, des experts des données, des protocoles d'interrogation, des collections, mais aussi des usages. On a des questions très précises sur les usages de nos salles de lecture, sur les usages des expositions virtuelles, et il faut qu'on puisse y répondre en temps réel pendant les 24 heures du hackathon. Donc c'est vraiment un événement qui a quelque chose de très puissant en termes d'échange avec les utilisateurs, mais aussi en interne, en transversalité interne et en investissement interne, et dans cette rencontre aussi qu'il y a entre nos experts et le public. Donc l'idée est vraiment l'idée au début, sur les deux premières sessions, donc 2016 et 2017, d'arriver à la création de projets, je reviendrai un peu plus tard sur les projets qui ont pu émerger, de projets qui vont pouvoir être réellement offerts à nos utilisateurs. On s'est engagé les deux premières années à ce que le projet lauréat du hackathon BNF soit développé dans notre système d'information et offert à nos utilisateurs. C'est une contrainte que nous avons abandonnée par la suite, j'y reviendrai. On a aussi utilisé cet événement comme un levier partenarial. C'est-à-dire que le hackathon BNF est un, quand même un des premiers hackathons dans le domaine culturel en France, et on a été sollicité par de nombreuses autres institutions qui souhaitaient pouvoir s'associer à l'événement pour pouvoir croiser leurs données avec celles de la BNF et également bénéficier des nouveaux services qui étaient créés. On a utilisé également pour susciter ces partenariats la mise en place de thèmes autour du hackathon. Le premier hackathon, il n'y avait pas de thème, c'était vraiment très libre, allez-y, proposez tout ce que vous voulez comme sujet, comme projet. À partir de 2017, on a choisi d'ajouter un thème. Donc un des objectifs, effectivement, a été de pouvoir regrouper autour de nous des partenaires qui étaient liés à ce thème. Un autre objectif, c'était aussi de susciter la motivation des participants à revenir. Parce que voilà, on revient pas si on n'a pas un peu de contraintes qui retitille l'imagination et la créativité. Donc en 2017, on a choisi le thème de la musique, qui nous a permis de mettre en place des partenariats avec Deezer, avec la SACEM, avec l'INA, donc partenariat public, partenariat privé, qui ont donc mis à disposition des jeux de données ou des API qui ont pu être croisés, alignés, mixés avec celles de la BNF. Et cette année, en 2018, on a choisi le thème de la jeunesse, et nos partenaires étaient Radio France, Arte Jeunesse, Bayer Presse et également l'INA. Et la Ligue de Paris sur un petit jeu de données. Et le ministère de la Culture sur un petit jeu de données aussi. Donc voilà, c'est vraiment un vivier de créativité, à la fois, donc, je vous l'ai dit, les utilisateurs, le public autour de nous, nous en tant qu'institution, mais également nos partenaires. On est vraiment sur quelque chose qui est très très ouvert. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qui sont ces hackathons, qui sont ces personnes, ces 70 personnes par an à peu près, qui viennent passer 24 heures, jour et nuit, à la BNF, pour venir inventer des nouveaux services. En fait, on a un public assez varié. On a beaucoup quand même de monde qui tourne autour de la culture geek. Voilà, nos Gallicanautes, donc la communauté des amateurs et des fanatiques de Gallica, la communauté des muséo-geeks, des biblio-geeks, donc des professionnels de la culture également, mais qui touchent un petit peu leur bille en termes numériques. On a pas mal de chercheurs en humanité numérique, tous les ans, une petite dizaine. On a des développeurs, évidemment, alors avec des profils divers. D'un côté, des prestataires de bibliothèques qui viennent explorer les données de la BNF avec des spécialistes qui leur expliquent comment ça marche, donc en profitent pour améliorer leurs compétences sur nos données. Et puis, des gens ici du monde du libre, des Wikipédiens, Wikidatiens, etc. Donc voilà, des codeurs de génie qui font ça sur leur temps de loisir. On a quelques designers, des étudiants en médiation numérique, en médiation culturelle, voilà, qui tournent autour de ces thématiques patrimoine et numérique. Lorsqu'on les interroge sur leur motivation, alors il y a effectivement une question de compétences professionnelles, hein, les étudiants ils viennent apprendre, les prestataires de bibliothèques viennent apprendre aussi à maîtriser les données. Il y a beaucoup de choses autour du loisir, ils viennent aussi pour s'amuser, la dimension ludique elle est extrêmement importante. Et puis l'attractivité de passer une nuit à la BNF et de pouvoir le dire, joue également. Et je joue également d'ailleurs chez les volontaires BNF aussi. Hein. On a plus de facilité à avoir des gens sur les plages horaires de la nuit que sur les plages horaires du jour. Voilà, donc la dimension unique dans le hackathon, je pense que c'est la même dans les musées, c'est à l'extrême ouais. Présente. Et puis les profils se sont aussi diversifiés avec les thématiques. Hein. On a bien vu que lors du thème de la musique, on a eu des étudiants et des chercheurs en musicologie qui sont venus. Sur le thème de la jeunesse, on a fait venir des enseignants, enseignants du secondaire notamment. Donc voilà, le fait de multiplier les thèmes, ça permet aussi de toucher des publics différents. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis, au-delà du hackathon à proprement parler, de créer des relations différentes avec ces personnes qui sont venues. Je veux dire, il y a quelque chose d'extrêmement intense qui se crée quand on passe 24 heures ensemble. On a même des fanatiques qui sont venus aux trois éditions du hackathon. On a pas mal qui sont venus deux fois, premier ou deuxième ou troisième. Et puis ce sont des personnes qu'on va pouvoir être amené à ressolliciter par la suite, par exemple quand on veut faire un focus group ou un user group sur l'évolution de Gallica ou d'une de nos API, on sait que c'est des gens qu'on peut ressolliciter et qui reviennent très volontiers. Donc il y a vraiment des relations fortes qui se sont créées avec eux et qui perdurent au-delà du hackathon et de l'événement des 24 heures à proprement parler. Alors concrètement, qu'est-ce qui sort de ces hackathons ? Parce que c'est quand même ça un peu la question, est-ce que cette co-créativité à l'œuvre est réellement efficace? Alors on a eu des projets extrêmement variés, de nature et d'intérêt ou de créativité différente, mais je vais me centrer sur les projets qui ont été les lauréats hein, de ces différentes sessions, parce qu'ils me semblent assez représentatifs. La première année, le projet lauréat, c'est le projet Gallicarte. Donc un projet qui permettait de fournir des résultats de recherche dans Gallica sous une forme cartographique. Et de pouvoir à la fois faire une recherche large sur l'ensemble des collections Gallica, mais aussi de pouvoir recentrer ça sur un corpus particulier. Donc c'est vrai que la recherche géolocalisée dans Gallica, on sait que c'est une demande qui revient régulièrement dans nos focus group. Ben voilà, c'est pas par hasard que ça a émergé dans le premier hackathon de la BNF. C'est un projet qui est extrêmement intéressant, mais qui pose de gros problèmes techniques, notamment parce que l'ensemble des collections de Gallica ne sont pas géolocalisées. Et donc, ce qui paraît une très bonne idée quand on la montre avec des corpus limités, bah, quand on essaie de l'implémenter pour de vrai dans Gallica, bah, en fait, c'est pas possible, parce que les données ne le permettent. Donc, on s'était engagé à développer ce projet, on l'a fait, mais par contre, on n'a pas pu l'intégrer dans Gallica, parce que la nature des données, enfin la richesse des données, les strates de constitution de notre catalogue font qu'en fait, ce n'est pas possible. Donc on l'a développé, mais on l'a mis à part dans un nouveau site qui s'appelle Gallica Studio, sur lequel je reviendrai, et qui permet d'héberger justement des projets nouveaux, créatifs, innovants autour de Gallica, mais qui n'intègre pas la structure même de Gallica. Aujourd'hui, quand vous allez dans Gallica, vous n'avez pas de recherche géolocalisée. Peut-être que dans 10 ans, quand on aura fini de retraiter entièrement nos données, ce sera possible. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'est pas possible. Donc c'est ça que je voulais montrer. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être l'émergence d'un vrai besoin utilisateur. N'empêche que c'est pas pour ça qu'on peut le faire. La faisabilité technique n'était pas là. Le projet qui a émergé, qui a été donc lauréat en 2017 sur le thème de la musique, c'est le projet Musivise, qui proposait là aussi d'enrichir les résultats de recherche de Gallica pour les collections sonores, en y ajoutant un ensemble de métadonnées techniques qui n'apparaissent pas aujourd'hui dans les résultats de recherche, qui apparaissent quand on a consulté le document, mais qui n'apparaissent pas dans la liste de résultats, ou sur la longueur, les formats, etc. Et puis, alors, je suis désolée, mais l'écran ne rend pas très bien. En fait, ici, c'est un spectrogramme, donc il y a une représentation graphique. Voilà, donc c'est un ensemble de points qui représentent graphiquement des collections sonores et qui permet pour les gens qui maîtrisent ce genre de technologie d'être tout capable de voir si c'est de la voix enregistrée, de la musique, de la chanson, etc. etc. Ce projet a donc été choisi comme lauréat du hackathon, mais à ce jour, on n'a toujours pas réussi à le développer pour des raisons non seulement techniques, mais aussi parce qu'il est extrêmement compliqué. En fait, les lignes de code qui sont issues d'un hackathon fait en 24 heures par des gens qui n'ont pas dormi depuis 24 heures et qui sont dans l'urgence de développer quelque chose ne sont pas documentés et sont souvent pas très propres. Et donc, si on ne veut pas retravailler avec eux pour pouvoir nous aider à comprendre ce qu'ils ont voulu faire, en fait, c'est impossible. Et il se trouve que l'équipe qui avait travaillé sur ce projet, c'est des gens qui étaient répartis partout dans toute la France et qui n'ont pas forcément souhaité se redéplacer pour venir nous aider à le faire. Donc, ça pose quand même des problèmes sur le et après. Autre chose que je voudrais dire à ce stade, c'est que les deux projets qui ont émergé, on voit bien qu'ils se ressemblent énormément. C'est quand même des projets qui, déjà sur Gallica, alors qu'on ouvre l'ensemble de nos données, que nos données cataloguent, ça aurait pu très bien être des projets de médiation, d'exposition virtuelle. C'est quand même deux projets sur Gallica. C'est deux projets qui sont des résultats de recherche de Gallica. Et en fait, on sent que le fait d'avoir dit le projet lauréat sera développé par la BNF, en fait ça a contraint la créativité et les participants se sont dit qu'est-ce qu'on va faire qui va plaire à la BNF. Et la deuxième année, ils ont en fait refait des projets qui ressemblaient à ceux qui a été lauréat la première année. Donc finalement, c'est pas forcément une bonne chose pour la créativité en tout cas que le gagnant s'engage à le développer. Après, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il peut émerger des projets qui ne sont pas lauréats, mais qui nous inspirent quand même. En fait, dans le règlement du hackathon, on demande aux participants que l'ensemble de la création qui sera produite dans le cadre du hackathon soit ouverte en licence Creative Commons. Donc tout est réutilisable, pas forcément que le projet lauréat. Et il y a ce projet qui a émergé la première année, qui s'appelle Gallica LOL, qui est un générateur de mèmes à partir des collections de Gallica, qui était en fait techniquement très simple, mais c'est juste qu'on n'avait pas eu l'idée. et qui a été un gros succès public, à la fois parmi le public du hackathon qui était assisté aux institutions, etc. Et sur Twitter, ça a été un gros succès. Et donc on a capté ça, on se dit c'est pas très compliqué à faire techniquement, il y a une vraie bonne idée, mais on va le reprendre. Et donc là, on est en train de le développer. On a tout repris, on n'a pas repris les lignes de code puisqu'elles ne sont pas exploitables, mais en revanche, on a repris l'idée, l'inspiration. Et on va ouvrir ça en 2019, vous aurez Gallica, le générateur de même sur Gallica qui sera ouvert au public. Donc on l'utilise quand même comme source d'inspiration. Il y a vraiment des choses intéressantes qui sortent. C'est juste que ce projet ne pouvait pas être lauréat parce que techniquement, il est trop simple. Et donc dans les critères quand même, voilà, il y avait quand même la difficulté technique, le fait de passer des verbes technologiques. Là, il n'y en avait pas. Par contre, c'est une vraie bonne idée, on l'a réussi. Donc finalement, c'est le seul vrai projet qu'on va développer dans l'ensemble de ceux qui sont issus du hackathon. Suite à cette analyse donc quand on contraint la créativité en disant qu'on va développer des projets, on a des projets moins importants, moins intéressants, on s'est dit qu'en 2018, on allait faire évoluer l'objectif du hackathon pour en faire un vrai événement de communication autour de l'open data. Donc là, on a cessé de dire que le projet lauréat serait développé. On leur a dit, laissez libre cours à votre imagination. Ce sera plutôt sur la créativité que vous serez jugé. Ce projet ne sera pas développé par l'ADN. Et en revanche, c'était vraiment l'occasion pour nous de communiquer sur cette stratégie d'open data qui est quand même amorcée à la BNF depuis 2011. Avec l'ouverture des données de data de bnf.fr, 2014, l'ensemble de nos métadonnées sont en open data. On ouvre des API sur l'ensemble de nos collections. Les 5 millions d'images du Gallica sont accessibles via l'API 3IF. Les 15 millions de notices bibliographiques du catalogue général sont accessibles et librement réutilisables via notre API catalogue général. C'est quelque chose qui est mal connu. Là, on utilise cet événement pour le faire connaître. Et par ailleurs, une des raisons pour lesquelles ces API ne sont pas forcément aussi utilisées que ce qu'on voudrait, c'est que nos données de bibliothèque, elles sont très complexes, elles ont des structurations complexes. Et là, on dit aux gens, ben voilà, pendant 24 heures, on va avoir des experts qui vont vous expliquer comment les utiliser, pas à pas. Vous allez avoir des formations et vous allez avoir du mentorat par des experts. Et donc voilà, l'idée c'était de faire rencontrer en fait notre offre de données en open data et des publics potentiels lors de cet événement. Donc voilà un peu la façon dont on a fonctionné cette année. Le projet lauréat cette année, c'est Mixte et Roman. C'est un projet assez chouette. Donc je vous rappelle que le thème c'était la jeunesse, donc tout ce qui était autour de la pédagogie autour des collections patrimoniales. Et l'idée c'est que il y avait donc une sélection d'ouvrages littéraires qui sont au programme du collège. De pouvoir aller rechercher les éditions diverses et variées de ces ouvrages et ensuite de pouvoir faire des extractions à partir des métadonnées sur les personnages, les thèmes, les lieux, les époques et que l'enseignant en classe puisse choisir un personnage d'un des ouvrages, un lieu, un thème, éditer des petites cartes à jouer comme ça et inviter ensuite les enfants en classe à faire, à réinventer un nouveau roman à partir de cette contrainte. Ce projet-là, on ne le fera nous jamais. Ce n'est pas du tout la vocation de la BNF de produire ce genre de service. En revanche, l'équipe qui a produit ce projet a été constituée pour moitié d'enseignants du réseau Canopée, pour qui, pour le coup, ça fait vraiment partie des missions. Donc ce qu'on espère véritablement, et on s'en est déjà reparlé, c'est qu'en fait, ils puissent aller jusqu'au bout de ce projet, en partenariat avec nous pour la fourniture des données, mais que ce soit eux en fait qui soient maintenant qui fournissent ce nouveau service en partenariat avec la BNF. Donc voilà, on sort l'innovation ouverte de la BNF, c'est eux qui vont la faire en partenariat avec nous. Et alors enfin, je voudrais juste dire une dernière chose sur cette question de open data et open innovation, c'est que les hackathons pour nous, c'est vraiment une occasion absolument unique d'avoir en face de nous des vrais réutilisateurs. Quand vous ouvrez des open API, les gens viennent se servir, ils viennent chercher vos données, mais vous ne les connaissez pas. C'est très difficile de pouvoir observer leur pratique. Alors, on a quelques travaux de recherche sur l'analyse des logs de connexion, mais ça reste extrêmement désincarné. Là, pendant 24 heures, on a des vrais gens qui utilisent vraiment nos données, qui utilisent vraiment notre documentation. Et donc, alors, la première année, on ne l'a pas fait, mais en 2017 et en 2018, on a mis en place une observation des pratiques des hackathoniens. Pour voir comment est-ce qu'ils rentrent dans les données, qu'est-ce qui leur pose problème dans la documentation, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire, etc. Et ça nous a permis, bah, d'une part, de faire évoluer notre offre. Donc, on a ouvert un portail qui s'appelle BNF API et jeux de données, sur lequel on documente l'ensemble de nos API. Ce portail a été ouvert en 2017 à l'occasion du hackathon 2017, en s'appuyant sur les problèmes qu'avaient rencontrés les gens en 2016. Donc, on l'a fait parce qu'il manquait d'un lieu qui regroupait l'ensemble de notre documentation. Et puis, on a aussi constaté des choses sur les échanges et sur les modes de recherche d'informations des hackathoniens, par exemple. Plutôt que de demander l'avis d'un expert, ils préfèrent se demander leur avis entre eux. Ils préfèrent aller chercher sur tous les forums, sur tous les tutoriels, vidéos possibles, imaginables, plutôt que de demander l'avis d'un expert. Donc, il va falloir qu'on soit là, voilà. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils viennent nous solliciter, même si là, on était juste à côté d'eux. Alors, a fortiori, quand ils sont chez eux, voilà. Donc, ça nous a appris des choses et donc ça va changer aussi notre médiation vis-à-vis d'eux. On va essayer d'être plus présents là où ils sont, plutôt que de s'attendre à ce qu'ils nous contactent. Très bavarde, je ne sais même pas faire d'accord, j'ai commencé à parler.
Ça fait peut-être encore
35
minutes.
Ça va encore 5 minutes. Alors, je vais essayer d'aller. Oui. Alors, en fait, on a une délégation à la stratégie à la BNF avec une sociologue dont c'est le métier de monter des protocoles d'observation. Mais après, l'observation elle-même, elle a été réalisée par les volontaires. Alors, ceux qui l'ont souhaité, donc en priorité les experts des données qui étaient capables de comprendre les questions et les problèmes relevés par les hackathoniens, mais selon un protocole d'observation qui a été mis en place par une sociologue. Donc, je vous signale juste donc ce Gallica Studio qu'on a ouvert à l'occasion du hackathon 2017 et qui nous permet en fait de centraliser les projets d'innovation ouverte autour des collections Gallica. C'est là qu'on va pouvoir mettre justement tout ce qui a été produit dans le cadre du hackathon et qu'on va essayer de regrouper, référencer l'ensemble des réutilisations, qu'elles soient scientifiques, artistiques, pédagogiques, des collections Gallica qui sont faites par d'autres que nous. Donc ça peut être aussi bien des petits bouts de code, voilà, il y a un chercheur qui a créé un petit appli qui s'appelle Gallica Alert qui permet d'être alerté sur les nouveaux documents intéressant sa recherche qui sont mis en ligne sur Gallica. C'est pas quelque chose qu'on a fait, c'est lui qui l'a fait, mais on réagrège cette information de façon à ce que d'autres utilisateurs puissent en bénéficier. On va aussi documenter effectivement des projets pédagogiques réalisés par des professeurs autour des collections de Gallica. Et donc voilà, à défaut de pouvoir nous intégrer dans Gallica toutes ces innovations, on les documente de façon à ce que chacun puisse les utiliser. Voilà, donc inutile de dire que ça change assez largement nos relations avec nos utilisateurs qui deviennent un peu des fous furieux de Gallica. Adieu, je viens de tomber dans Gallica, adieu vie sociale. C'est vrai que voilà, le fait de travailler en confiance avec un échange avec nos utilisateurs, ça modifie assez radicalement nos relations avec eux. Je voulais finir sur le fait que une grosse question qui avait émergé pour nous de ces hackathons, c'est comment est-ce qu'on fait pour que des projets qui émergent de la créativité collective puissent être mis en œuvre de façon opérationnelle au sein de la BNF. On a vu que sur Gallica, je vous ai un peu fait un retour d'expérience sur les problèmes que ça a posé, mais en fait, on a des problèmes similaires avec des projets qui sont plus qu'il y a de la médiation, de la communication. Et je voudrais vous faire ce rapide retour d'expérience sur un bibliomix. Donc, bibliomix, c'est comme un muséomix, mais pour les bibliothèques. C'est un format un peu plus court, c'est juste une journée. Qu'on a organisé autour de deux de nos salles de lecture, donc la salle du Haut Jardin, donc la salle de lecture publique, salle de lecture audiovisuelle et salle de lecture presse. On s'est dit, on va essayer de créer un nouveau pôle média de la BNF dans ces salles. Pour le faire, essayons de travailler avec nos utilisateurs. Donc, on a fait venir des étudiants, des gens qui fréquentaient nos salles de lecture, des professionnels des médias non fréquentants, et puis un certain nombre d'agents de la BNF également et d'autres bibliothèques. Et donc, on a eu cette journée de co-créativité qui a permis de faire émerger 8 projets, donc aussi bien un studio de création audiovisuelle qu'un point café auprès de la presse. Puis quand on s'est retrouvé avec ce qu'avaient émergé ces 8 projets, pour le coup, ils avaient vraiment été, ils sont nés dans les salles, des problèmes qui ont été identifiés. Mais n'empêche qu'ils ont quand même né de l'imagination d'une trentaine de personnes. Est-ce que ça vaut adhésion de l'ensemble de nos publics ou pas? Et donc on s'est lancé dans une deuxième étape, qui est une phase d'expérimentation. En se disant, bah, plutôt que de prendre pour argent comptant ce qui est issu du bibliocomics et de dépenser 1 million d'euros pour refaire intégralement nos salles, on va peut-être d'abord tester les dispositifs, on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, puis on décidera après. Et un des sujets qui faisait beaucoup débat, c'était justement cette idée du point café. Parce qu'en fait, il avait émergé dans le bibliocomics que les gens adorent avoir leur café en lisant la presse. Mettons un point café à côté de la presse. Et on l'a testé. Donc on a fait une expérimentation en printemps 2018 de café presse dans les salles de lecture. Donc il y avait à la fois de la presse, des tablettes avec de la presse numérisée, du café gratuit, parce que c'était le cadre de l'expérimentation, on s'est dit, voilà. Et on a mis en place un protocole expérimental d'observation. Alors, observation, entretien avec les personnes qui l'utilisaient et qui n'utilisaient pas le point presse, entretien avec le personnel pour voir aussi quelles étaient les implications en termes de bruit, de charge de travail, etc. De ce point presse. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'en fait, le besoin n'existait pas. Parce que quand les gens viennent lire de la presse à la VNF, ils viennent pour travailler. Et que quand ils veulent faire leur pause café, ils veulent pouvoir fumer en même temps, ils veulent pouvoir téléphoner en même temps, ils veulent pouvoir parler en même temps. Et donc ça, dans une salle de lecture, en tout cas, telle qu'elle existe aujourd'hui à la VNF, c'est pas compatible. Ils préfèrent se faire une pause, ils veulent sortir, ils veulent prendre l'air, ils veulent pas rester dans la salle. Donc on a fait une deuxième expérimentation, qui vient de se terminer là. C'est là, puisque mettre le café dans les salles, c'est pas une bonne idée, si on mettait la presse, le café. Et donc on a testé un kiosque presse dans les halls, donc en dehors des salles de lecture. Il y a deux zones où on peut boire du café à la VNF, dans chacun des halls. On a testé ce kiosque et le protocole expérimental dans les deux espaces pour voir ce qui fonctionnait. Donc là, on est en train de finir l'analyse de cette expérimentation, donc les résultats sont encore potentiellement, ça va pouvoir bouger un petit peu. Mais en gros, ça a beaucoup mieux fonctionné. Le côté... Là où on l'a testé au niveau de l'entrée de la BNF, notamment, ça a très bien fonctionné et puis ça a eu un effet intéressant qui est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans ce hall et qui ne viennent pas pour les salles de lecture, pour les manifestations, pour les expos, etc. Ils ne savent pas du tout qu'il y a des salles de lecture, ils ne savent pas qu'il y a des collections de presse comme ça. Et ça leur permet de connaître cette offre-là et pour un certain nombre d'entre eux d'aller ensuite dans la salle. Pour d'autres, c'était juste, ils sont juste contentés de consulter la presse et ça correspondait aussi à ce besoin qui était faire venir les collections auprès des utilisateurs là où ils sont. Donc pour le moment, c'est un résultat qui est plutôt favorable. Il reste encore la validation administrative pour voir si on pérennise ce dispositif. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment voulu passer par ce dispositif. On co-conçoit avec les utilisateurs, ok, mais ça n'est pas suffisant. Après, on expérimente de façon à voir ce qui marche vraiment avant de passer à l'échelle. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Pauline. Alors, moi, je suis enseignante chercheuse au Carré, à l'Institut français de presse, mais par ailleurs, je suis une muséomixeuse chaque année et j'ai organisé un dansathon cette année. Donc, l'adaptation de muséomix version danse, du coup. Et donc, ça résonne beaucoup, tout ce que vous dites. Et là où je suis assez. Où je m'interroge beaucoup, c'est cette question à la fois de la pérennisation des projets. Alors, vous avez cette possibilité justement de pouvoir tester et de pouvoir vous demander vraiment s'il y a une adéquation entre ce qui ressort de ces hackathons et ce qu'attendent vraiment les usagers au final. Mais aussi la pérennisation des rapports de coopération entre toutes ces personnes qui sont finalement impliquées sur 3 jours, une journée, une nuit. Est-ce que vraiment ça change quelque chose? Alors peut-être que certaines personnes qui ont accueilli dans leur structure des musées, Nathalie par exemple sur le palais de la découverte, est-ce que vraiment ce type de hackathon change quelque chose et dans quelle mesure ces bouleversements un peu organisationnels peuvent changer quelque chose sur le long terme? Moi ça m'interroge pas mal.
La question aussi que moi j'avais, c'est est-ce que parmi les gens, le personnel, est-ce que c'est toujours les mêmes 50 sur les 3 ans ou finalement est-ce que ça tourne?
Ça tourne un peu, mais il y en a qui reviennent tous les jours.
Mais ça
diffuse petit à petit et on a après des retours assez intéressants de personnes qui se sont rencontrées à l'occasion du hackathon, donc des gens de la BNF, hein, qui se sont rencontrés au milieu de la nuit parce qu'ils servaient des cafés aux hackathoniens, et qui après ont monté un projet ensemble, professionnel. Parce que ils étaient dans la BNF, c'est 2500 personnes. Et ils étaient vraiment dans des cas, ils étaient tellement loin, ils avaient beaucoup de choses à se rencontrer. Et là, il y a eu un lieu de rencontre et ça a pu faire émerger des choses pour de vrai. Et ça, je trouve ça assez chouette. Hein.
Du coup, je
et en termes de rupture de silo santé ou pas de métier
Et même des silos qui paraissent proches. Hein. Les experts des données, les experts des bibliothécaires, un peu data scientists, et les experts des formats, des informaticiens, on bosse ensemble au quotidien. Mais n'empêche que là, passer la nuit, ça crée des choses et ça permet de se parler et de décloisonner des relations qui étaient des relations professionnelles où on a parfois un peu de mal à se comprendre. Bah là, d'un coup, on est obligé de s'expliciter, d'autant plus qu'on le fait pour les utilisateurs finaux. Et donc, entre eux, ça a vraiment décloisonné des choses. Ça a aussi décloisonné beaucoup, alors ça, c'est quelque chose quand même, je trouve particulièrement important, entre les informaticiens et les utilisateurs finaux. Parce que les informaticiens, c'est quand même ceux qui ne sont jamais en contact avec les utilisateurs. Et nous, on leur demande de faire évoluer leurs applications, etc. Et ils me disent, de toute façon, ça n'intéresse personne. Non, mais ce que vous dites, moi, je pense que les utilisateurs, ils ne veulent pas, etc. Et là, ils sont sous le nez, quoi. Ils n'ont pas le choix, ils ont le nez dans l'usage. Et ce décloisonnement, il existe aussi.
J'avais une question. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres dispositifs comme ça qui sont mis en œuvre dans d'autres bibliothèques en France où c'est spécialement dédié à la BNF?
En fait, un hackathon sous le format d'une autre nécessite d'avoir des données ouvertes. Donc nous, en plus, ce sont des API, donc c'est quand même beaucoup plus simple pour un développeur d'aller récupérer directement des données. Après, voilà, les Archives nationales ont organisé leur hackathon l'année dernière, quasiment en même temps que d'autres. Eux, c'était pas avec des API, hein, ils ont fait des extractions de données et des fichiers XML qu'il fallait manger. Donc, donc forcément, eux, ils ont dû limiter, ils ont dû choisir des corpus qu'ils ont mis à disposition. Nous, c'est vrai que le fait d'avoir une open API, enfin, on en a 5 ou 6, des open API, ça nous positionne de façon un peu différente dans l'écosystème culturel, parce qu'on est un peu les seuls. Hein. Donc ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des projets semblables, et dans ce cas-là, ça va être sur des corpus extraits. Hein. C'est une autre chose.
J'ai peut-être un petit retour d'expérience à faire sur un projet un peu similaire, mais qui était autour de la consultation de catalogue de patrimoine en danse pour le Centre national de la danse, qui est un projet de recherche-action avec des étudiants engagés et des étudiants de Master 2. Où on a commencé par l'observation, justement, pour faire émerger les besoins, faire émerger la compréhension des activités des utilisateurs, la manière dont les consultations documentaires entrent dans leurs activités professionnelles, que ce soit des journalistes en danse, que ce soit des chorégraphes, etc., pour engager des démarches de création, de concepts, d'interfaces, de nouvelles interfaces, pour développer un public familier de la danse, mais non familier de la consultation des archives, parce qu'en fait, ça se connecte pas en fait au Centre national de la danse entre le public des archives et le public de la danse. Et donc là, l'idée, c'était d'inventer des interfaces pour créer cette connexion-là. Et les projets qui ont émergé donc, se sont faits sur un temps un petit peu plus long hein, que le hackathon, il s'agissait de pouvoir mener ces observations au préalable et de manière à proposer des concepts construits sur la base de ces observations. Et ces projets ont fait bouger la réflexion en interne. Alors on a rencontré un petit peu le même type de problème qui est que même si les étudiants se sont basés sur une connaissance de la structuration des données, sur des exports XML, etc., en fait on est arrivé à des propositions qui demandait de faire un peu plus table rase des structures actuelles du catalogage et de la consultation. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'être rendu compte que les propositions ont convaincu les services en question, donc le responsable patrimoine, archives, édition, de cette nécessité de refonte pour pouvoir engager une démarche centrée utilisateur qui implique de revoir la structuration du catalogue. Donc ça, c'était... Et puis, ça a permis aussi ce décloisonnement entre les services, puisque là, la démarche était engagée avec un service qui était donc le service patrimoine, archives, numérisation, etc. Et pas du tout le service communication, qui sont deux services qui interagissent pas trop entre eux, qui ont du mal à se faire de la place de manière cohérente pour l'utilisateur sur l'interface du site actuel, etc. Et donc ça a amené aussi les produits qui ont pu naviguer entre ces services ont permis de nouvelles mises en dialogue de ont permis de circuler entre des services et un petit peu cloisonnés, petit retour d'expérience.
Je pense que Pauline pourrait réagir peut-être sur justement la co-construction avec les services internes aussi à la BNF.
Ça rentre exactement là-dessus, mais en tout cas, nous, ça nous a beaucoup appris sur la façon de travailler ensemble, le hackathon, de ce que le fait d'avoir des équipes transdisciplinaires, dédiées sur un temps court, etc., pouvait avoir de force créative. Et on a mis en place, pour le coup, en interne, un programme intrapreneurial, donc un laboratoire d'innovation interne, qui s'appelle la Collab, de la BNF. Voilà, mauvais jeu de mots, mais ça marche assez bien. Et donc la Collab, c'est 8 facilitatrices formées qui accompagnent des projets en interne de façon à les faire émerger, à développer aussi la culture de l'expérimentation. Donc voilà, à chaque fois les projets, on les fait passer dans des groupes de design thinking de façon à faire émerger, enfin avoir à la fin une phase d'empathie, pour comprendre les besoins des utilisateurs, une phase de créativité, et puis ensuite une expérimentation, un test. Voilà. Et donc on essaie de développer ça aussi en interne pour nos propres projets, ce qui émerge des agents, que ce soit des projets structurants pour l'établissement d'ailleurs, on peut aussi faire passer dans des boucles de créativité plus rapides, aussi des projets lourds, mais aussi des projets qui vont émerger de l'idée d'une personne. Par exemple, là on vient d'accompagner une restauratrice d'ateliers de restauration, qui s'est dit, tiens, si pour les supports de masques, donc on a pas mal de collections de masques, notamment au département des arts du spectacle, si pour nos collections de masques, on utilisait l'impression 3D pour pouvoir faire des supports qui s'adaptent très exactement aux masques, plutôt que de passer 6 mois à faire un support adapté à chaque masque. Elle a eu cette idée-là, mais elle n'avait pas au sein de son département de soutien particulier, enfin pas de frein non plus, mais donc il n'avait pas les moyens à mettre pour faire émerger ce projet. Et donc là, on a pu l'accompagner pendant 6 mois à faire des protocoles d'expérimentation de façon à voir si son projet fonctionnait ou fonctionnait pas. En l'occurrence, il fonctionne.
J'ai une petite question par rapport à ces démarches. On a dans les musées ou à la BNF tout ce qui est des structures qui sont les départements des publics ou des départements de la stratégie avec des actions mises sur les études de public, les attentes des publics et les besoins. Comment on articule des démarches relativement récentes du type hackathon avec des démarches plus classiques, enquête, besoin des publics, remontée classique des publics. Je pense notamment au café. Vous avez les lecteurs, des comités de lecteurs ou des comités d'usagers qui ont dans toutes les structures un peu des remontées. Donc il y a à la fois des remontées lecteurs, usagers, publics. Il y a les structures elles-mêmes qui sont sur les études de public, et non seulement l'étude, mais les besoins, la récolte, la collecte des besoins pour alimenter une stratégie d'établissement. Ces démarches-là, elles viennent bousculer, compléter. Comment c'est approprié? Parce que les départements des publics, c'est quand même aussi un bras armé très fort de l'institution ou des politiques.
Je peux pas répondre pour les musées. À la BNF, on s'est doté d'un département des publics en 2019. Enfin, la direction des publics en 2019. Voilà. Bon, en fait, ça fait un an et demi qu'elle est en préfiguration. Okay. Ça a été voté tout en 2018. Voilà. Donc le fait d'avoir une direction des publics centralisée sur le modèle des musées, c'est extrêmement récent pour nous. Auparavant, ça existait, mais c'était réparti entre la direction des collections, la délégation à la stratégie, des entités qui étaient rattachées directement à la directrice générale, donc ce qui était autour du public handicapé, etc. Donc là, tout ça a été recentralisé pour en faire une grande direction stratégique. Et donc, c'est extrêmement récent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même, on a une délégation à la stratégie qui mène des études depuis très longtemps. Mais une grosse question sur ces études, enfin, il y a deux choses. La première, c'est que ces études ont très longtemps été des études très, très traditionnelles. Alors, des études sur les chiffres, donc des études quanti, et des études sur questionnaires, donc des études de quali, mais déclaratives. Donc là, déjà, depuis 3 ans, 3-4 ans, la délégation à la stratégie fait des études beaucoup plus ethno et sociologiques, de façon à identifier les véritables pratiques, sortir de déclaratif et d'aller vers l'observation, pour véritablement voir quelles sont les pratiques réelles des gens et pas seulement ce qu'ils disent qu'ils font. Voilà. Donc là, on commence à avoir de la matière, mais c'est relativement récent, ça fait 3-4 ans. Ceci dit, la vraie question, c'est qu'est-ce qui est fait après avec ces études ? On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup un gap entre une délégation à la stratégie qui fait des études qui sont extrêmement poussées, extrêmement intéressantes, surtout avec cet aspect normes et sociaux, et puis ensuite des départements opérationnels qui en prennent ce qu'ils veulent et pas forcément, qui ne reviennent pas forcément sur leur pré-représentation des utilisateurs, de ce que veulent, de ce que font et de ce qu'attendent les utilisateurs. Et donc, comment est-ce qu'on fait rencontrer la connaissance des publics et la mise en œuvre opérationnelle ? C'est un vrai problème. Et nous, c'est une des solutions qu'on apporte. C'est-à-dire, il y a des choses qui sortent de façon à ce que les départements opérationnels s'approprient le truc, on va leur faire tester. Et c'est eux qu'on va faire observer. C'est eux, les protocoles d'observation qu'on met en place, c'est les départements qui gèrent les salles de lecture, qui sont sur le terrain et qui remplissent les grilles d'observation. Et dans ce cas-là, ils ne peuvent pas dire on n'a pas lu le rapport d'études, ils le voient pour de vrai. Pour nous, c'est un rôle extrêmement important dans l'accompagnement au changement, de la représentation que les personnes de personnel sur le terrain se font des utilisateurs, parce que c'est clair que les enquêtes de 300 pages PDF à peine illustrées ne le lisent pas. Dans le meilleur des cas, leur directeur leur lit et en fait une synthèse en 10 minutes au début de la réunion de département qu'ils n'écoutent pas. Et donc là, en fait, nous, on est un des maillons de comment est-ce que, en fait, véritablement, ce qui sort des études et de la compréhension des usages va pouvoir drainer l'opérationnel. Là, par exemple, il y a eu dans une des grandes enquêtes, on a un observatoire des publics qui c'est tous les 3 ans, il faut peut-être avoir une vision un peu générale des usages. Il y a un chiffre extrêmement intéressant qui nous a marqué, qui est qu'il y a en permanence 15% de primo arrivant à la BNF. Chaque jour, 15% des gens qui rentrent à la BNF, ils rentrent pour la première fois. C'est massif. Et on sait que quand on rentre à la BNF, c'est compliqué. Et donc, on a lancé une grande opération sur l'accueil des primo-arrivants et l'évolution de la prise en compte de ces besoins. Donc ça a émergé d'une enquête de la délégation à la stratégie. Ça fait maintenant l'objet d'une enquête plus approfondie avec un groupe de chercheurs en sociologie, enfin d'étudiants en sociologie, qui va déboucher derrière sur des expérimentations que nous, on va pouvoir accompagner à l'innovation. Et c'est de cette façon-là qu'en fait on va réintégrer dans les pratiques des choses qui sont issues des études. Et moi je suis extrêmement curieuse de savoir comment ça se passe ailleurs. Parce que est-ce qu'effectivement ces études hyper profondes qu'on fait dans les musées, est-ce qu'elles drainent vraiment les mises en œuvre opérationnelles au quotidien dans les parcours utilisateurs ?
Les dispositifs de médiation.
Justement, dans ce souci de mesurer un peu l'intégration dans l'opérationnel des idées de la force créative de ces moments-là, je pense cette idée d'avoir des données, des métadonnées géolocalisées, cette tendance qu'elle sent qui est très lourde dans le web en général, est-ce qu'elle a été intégrée dans justement le schéma des données de la BNF ?
C'est un des projets très peu en cours. On a un calendrier de traitement de données, la question du géoréférencement en fait partie. Il y a 5 données pour lesquelles c'est facile, parce que finalement on peut l'induire par traitement de données de l'indexation géographique littérale, et on peut essayer d'accoupler des coordonnées géographiques. Dans d'autres cas, il va falloir retourner au document. Et là, concrètement, c'est pas dans les priorités de traitement. Quoi. Donc, on a encore 2 chantiers qui est pour la production courante, essayer autant que possible de pouvoir disposer de ce géoréférencement, de cette géolocalisation. Et pour ce qu'on peut traiter automatiquement, on va le faire. Pour Tout le reste, clairement, c'est un chantier qui va dépasser pour se vivre tout ça.
Merci beaucoup.